voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Johanna Bedeau rencontre Daniel Zaguri. Ce soir, un avenir à Chevilly-la-Rue.
Pour évoquer avec nous votre parcours et vos souvenirs, vous nous ouvrez les portes de votre maison en plein cœur de la banlieue parisienne. C'est ici, entouré de votre femme et de vos trois enfants, que s'entremêlent des scènes quotidiennes de la vie familiale et les prémices de comptes rendus d'expertise. Pour commencer, je peux simplement dire que vous êtes né le 26 juin 1950 à Courbevoie, dans une famille juive, et après de brillantes études, vous faites le choix de la psychiatrie, avant de devenir le chef de service du centre psychiatrique du Bois de Bondy en Seine-Saint-Denis. De Daniel Zaguri, le grand public connaît surtout l'expert psychiatre qui rencontre ces hommes que l'on voudrait ne pas voir et qui nous inquiètent tant. Guy Georges, Patrice Allègre, Michel Fourniret et plus récemment des terroristes. Vous écoutez et décryptez sans jamais vous détourner de ce qui vous anime tant, la clinique. Attentif à ce que vous allez transmettre, vous aimez penser qu'il est possible d'apaiser la souffrance de l'autre. Bonsoir Daniel Zaguri.
Bonsoir.
D'où vous vient cette exigence de transmission que vous avez besoin de déployer tout autour de vous?
Ah, vous commencez fort. Alors, peut-être de ma rencontre avec des enseignants. J'ai longtemps pensé, je le pense encore d'ailleurs, que le métier d'enseignant est le plus beau métier du monde. Parce que j'étais un enfant assez anxieux, assez d'une manière plutôt injuste. Je trouvais que mon père manquait d'ambition. Je me suis bien sûr réconcilié avec son image par la suite. Mais il avait arrêté ses études assez tôt. Donc j'avais une sorte d'avidité, je m'en rends compte, qui était extrêmement puissante, de modèle. Alors j'ai eu la chance et la malchance, quand nous sommes arrivés du Maroc, en même temps que tous les pieds noirs, nous avons débarqué à Chevilly-la-Rue, et j'ai été sectorisé sur le lycée La Canale. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs tout à fait extraordinaires. Je me souviens d'Albert Hamon, qui avait fait la fameuse grammaire. Hamon, qui était professeur de lettres et de latin, et donc il aurait fait aimer le latin n'importe qui. Je me souviens d'un mathématicien qui s'appelait Paul Viciot, qui est malheureusement décédé quelques années plus tard, et qui avait écrit un bouquin de mathématiques qui s'appelait « À la conquête de l'espace », qui m'avait fasciné. Et alors que j'étais nul en mathématiques, je suis devenu bon grâce à lui. J'ai croisé la route comme élève de Louis Mermaz, qui était professeur d'histoire. Bon, donc comme ça, des pédagogues qui avaient un grand sens de l'enseignement et un intérêt pour les jeunes. Et ça a été pour moi quelque chose de très important. Alors, je suis né dans la petite classe moyenne, mais je ne vais pas vous dire que j'ai eu une enfance misérable, c'est absolument pas vrai, hein. J'ai eu une enfance tout à fait heureuse, et avec des parents aimants. J'ai toujours eu cette anxiété de savoir ce que j'allais faire de ma vie, d'autant que, encore, on revient à Chevilly-la-Rue, j'étais au lycée La Canale avec des garçons qui étaient issus de milieux très bourgeois et donc j'avais cette espèce de sentiment d'avoir par rapport à eux un handicap. Et puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné envie d'être curieux. Je me souviens de l'impact extraordinaire qu'avait eu sur moi Jean Rostand. Il était venu faire une conférence sur la biologie et j'avais été complètement fasciné par ce personnage, le biologiste à la grenouille, comme on l'appelait à l'époque. Et entre autres, c'est lui qui m'a donné envie de faire des études de médecine. Donc, mais si vous voulez, cette envie de transmission, c'est au fond de rendre ce qu'on m'a donné. C'est peut-être aussi lié à mes racines juives. Et puis, ça s'accompagne pas d'un plaisir pédagogique. Je me sens pas du tout comme les universitaires. J'ai pas de plaisir à faire des cours très didactiques. J'ai beaucoup plus de jubilation à donner comme ça des voies, des pistes à des plus jeunes, comme moi-même je l'ai reçu. Hein. Quand nous étions de jeunes internes, je me souviens de très grands cliniciens comme Georges Lanthéry-Loira, comme Jacques Chazot, qui allait devenir mon patron. Quand nous allions à leur leçon clinique, nous étions éblouis.
On va revenir un petit peu avant. Quand on est face à un homme comme vous, on se demande dans quel environnement culturel et intellectuel vous avez vécu. Vous naissez à Courbevoie pendant un séjour en France de vos parents. Pourtant, c'est à Casablanca où vous vivez jusqu'à l'âge de vos 10 ans. Quels souvenirs vous avez ?
Alors, du Maroc, je ne garde que des bons souvenirs. C'est le soleil, la mer, la famille à la plage, les cousins, les cousines, la vie facile. Et un très curieux chassé-croisé d'avant-coup et d'après-coup. C'est-à-dire que pour moi, la France était un pays merveilleux. Pays que je ne connaissais qu'à travers les bandes dessinées. Et quand je suis arrivé à l'âge de 10 ans en France, le long de la nationale, là, je me suis mis à avoir la nostalgie de mon enfance au Maroc. Donc, quand j'étais petit garçon au Maroc, je rêvais de la France. Et quand je suis arrivé en France, j'avais la nostalgie du Maroc.
Les souvenirs de ces moments vécus à la croisée des chemins entre plusieurs cultures, juives, marocaines, mais aussi françaises. Est-ce que c'est un premier nœud dans l'existence d'un enfant ?
Oui, sûrement. Alors, mes parents avaient ce souci de ne pas nous imposer la religion à ma sœur et à moi. Eux-mêmes avaient déjà pris beaucoup de distance. Ils mangeaient, ils ne respectaient pas la cacheroute, bon, et puis ils vivaient de façon tout à fait libérale. Donc, mais ils ne voulaient pas, au fond, assumer d'être le premier chaînon qui rompt la lignée. C'est comme ça que j'ai eu des cours d'hébreu, c'est comme ça que donc j'ai passé ma bar mitzvah, mais c'était déjà, je me sens beaucoup plus juif sur le plan de la culture ou sur le plan de la tradition que sur le plan de la religion.
Parce que pour vous, Daniel Zaguri, être juif, ça se traduit comment justement ? Comme une lignée d'histoire ? Vous parlez de culture ?
Oui, comme une lignée d'histoire. Par exemple, vous parliez de filiation, effectivement, comme un souci de filiation. Si les Juifs ont traversé les persécutions, s'ils ont survécu à tout ça, c'est parce qu'ils se sont transmis de façon très puissante, très forte, ce savoir inaltérable qui constituait le noyau de l'identité commune.
Alors, une fois que vous êtes arrivé en France, quelle lecture objective vous avez du Maroc ? Vous arrivez au bord de la nationale, c'est ça ? C'est une image ou c'est vraiment la réalité ?
Non, c'est vraiment la nationale. Bon, c'est une déception d'enfant, c'est-à-dire que au Maroc, nous étions riches, nous avions une vie extrêmement aisée. En France, dans le contexte effectivement des rapatriés au début des années 60, nous étions beaucoup plus modeste.
Vous arrivez donc à Chevilly-Larue, comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes scolarisé dans l'excellent collège, La Canale, près de Paris, avec des enfants, quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, issus de la grande bourgeoisie. Alors vous, Daniel Zaguri, issu des classes moyennes, vous vous emparez pleinement de vos études sans souffrir de cet écart social important ?
Si, alors, mais c'est à la fois, c'est aussi un aiguillon pour, c'est à la fois un aiguillon et en même temps une source d'anxiété. Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et puis, sans m'étaler sur ma névrose personnelle, au fond.
Ça vient un peu quand même, hein.
Vous avez dit tout à l'heure que j'ai fait des études brillantes. Non, je n'ai pas fait des études brillantes. J'étais un bon élève, mais j'étais pas un excellent élève. J'étais pas pour ma mère, de toute façon, tout ce que je faisais était bien, puisque c'était moi le garçon. Et pour mon père, tout ce que je faisais n'était pas si bien que ça. Donc, il fallait bien trouver des motivations personnelles et des encouragements personnels. C'est pour ça, sans doute aussi, que j'avais une grande avidité de rencontres avec les enseignants. Et ce qui, pour moi, a été source de plaisir, même de jouissance, c'est des appétits intellectuels. J'ai pas du tout cherché une réussite matérielle. Maintenant, si elle est venue, je vais pas la refuser. Hein. Mais ça n'a jamais été pour moi le moteur. Pour moi, ce qui vraiment m'a poussé, c'est la psychiatrie, la clinique, l'expertise, avec cette ambition de faire aussi bien que ceux qui avaient été pour moi des modèles.
Alors, qu'est-ce qui va faire naître, Daniel Zeguri, votre vocation de médecin ?
Effectivement, je voulais devenir biologiste. Bon, mais ça n'a pas tenu. Persuadé que j'étais fait pour le laboratoire. Alors, les études de médecine, au fond, j'avais pas tellement la vocation médicale et je pense pas que j'aurais pu être un bon médecin. Maintenant, le corps et la proximité de la mort, c'était pas. C'était pour moi une source de malaise. Donc, et très très vite dans mes études de médecine, la psychiatrie m'a attiré. Pourquoi ? Bah parce que dès l'adolescence j'avais lu Freud, parce que j'ai passé mon bac en mai 68, parce que il y avait tout un mouvement, une turbulence sociétale qui faisait que on était pris là-dedans et que j'étais quand même un étudiant en médecine un peu atypique, hein, puisque je lisais Freud, Henriet, très très vite dès les premières années, et que très très vite j'ai senti un attrait pour la psychiatrie.
Vous associez quand même très tôt vos impressions littéraires avec la psychiatrie. On a l'impression que ça vous guide pour le coup.
Absolument. Oui, oui. Ma thèse, par exemple, ma thèse que j'ai faite à l'âge de 29 ans, c'était à partir de Canguilhem. Canguilhem, sa thèse a été un moment très important, hein, dans l'histoire de la philosophie et de la médecine. Canguilhem, c'était le maître de Foucault. Hein, et au fond, avec, je dirais, la naïveté de la jeunesse, je me suis dit pourquoi pas me demander en quoi Canguilhem a pu éclairer les questions qui sont les nôtres.
La lecture de Michel Foucault, justement, s'avère différente en fonction de la période de votre vie.
Ah oui, oui, j'ai eu plusieurs lectures de Michel Foucault. Alors la première lecture, c'était une lecture jubilatoire et antipsychiatrique. C'est assez amusant parce que dans ma thèse, qui a été publiée plus tard, j'avais une position extrêmement critique à l'égard de l'expertise psychiatrique. Donc je m'en moquais. Et donc ma première lecture de Foucault, ça a été ça. La deuxième lecture de Foucault était beaucoup plus gênée, un peu honteuse. C'est quand j'ai commencé à faire de l'expertise. Il est excessif, il exagère, c'est pas tout à fait vrai.
Voilà. C'est quand vous découvrez aussi le monde carcéral, c'est ça ?
Oui, j'ai découvert le monde carcéral tout à fait par hasard. À la fin de mon internat, j'avais pas de poste et il fallait que j'attende quelques mois, un peu plus d'ailleurs, pour avoir un poste d'assistant, on disait à l'époque, auprès de mon patron, Jacques Chazot. Et donc, j'ai cherché des vacations et je me suis retrouvé dans une prison qui venait d'ouvrir à Bois d'Arcy. Et là, effectivement, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que ben, j'ai découvert des types de pathologies qu'on ne voit jamais à l'hôpital, et puis donc des crimes passionnels, des parricides, des mères qui tuaient leurs enfants, et vraiment ça a suscité en moi un véritable intérêt, même un bouleversement. Ça a été le vrai point de départ de mon envie de faire des expertises plus tard. Et donc, ma troisième lecture de Foucault, ben, c'est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec une grande admiration pour son intuition de l'évolution, de répondre à la société sur des questions de dangerosité et de sécurité. Et ça, il en a remarquablement parlé. Pour ce qui concerne sa critique de l'expert bouffon, hein, l'expert ne peut être qu'un bouffon, disait-il, je pense que avec un certain nombre de camarades, enfin d'amis ou de gens de ma génération, on a eu constamment ce souci dans l'expertise psychiatrique d'échapper aux moqueries foucauldiennes, voilà.
Oui, c'est ce qui vous a amené justement à distinguer ce qui relevait de chez Foucault d'une sorte d'irritation personnelle à l'égard des psychiatres, qui est parfois très violente, très virulente.
Oui, très violente, très virulente, et en même temps, je dirais que c'est pas ce qu'il a fait de mieux, parce que c'est manifestement très personnel.
Par rapport à ce qu'il a vécu, lui.
Par rapport à sa vie, par rapport à son parcours. Et en même temps, il est assez sévère à l'égard donc de la psychiatrie légale. Il dit que la psychiatrie c'est une sorte de ventre mou. Ça n'est ni un discours juridique ni un discours clinique. C'est une sorte d'hybride qui permet toutes les approximations et toutes les instrumentalisations.
Il a d'ailleurs soutenu, comme vous l'avez si bien rappelé dans un de vos articles, que la psychanalyse fut la première anti-psychiatrie.
Alors, c'est vrai que pour nous, à l'époque, nous confondions un peu anti-psychiatrie et psychanalyse. Michel Foucault a dit, lorsqu'il a écrit l'Histoire de la folie, qu'il ignorait le mouvement anti-psychiatrique. Donc, et y a effectivement, chez Foucault, cette opposition entre une clinique objectivante et instrumentalisable et une psychanalyse qui, elle, serait du côté du sujet. C'est effectivement une opposition, je dois le dire, assez simpliste, mais qui était très, très présente dans nos esprits à l'époque.
Oui, ce que vous disiez, en libérant le malade de sa capture par l'objectivation du regard.
C'est très exactement ce qui était prévalent, c'est-à-dire d'opposer une capture objectivante du regard à une écoute de l'inconscient. Et si vous voulez, c'est vraiment ce qui était au cœur de nos représentations, je dois dire, un peu caricaturales. Alors moi, je pense être quelqu'un d'assez ouvert et je déteste les dogmatismes. Et à l'époque, j'étais une sorte de partisan de la psychiatrie biologique avec les psychanalystes, j'étais psychanalyste avec les psychiatres biologistes. Je veux dire, je pense qu'il y a dans la position juste et authentique du psychiatre quelque chose qui emprunte à tous les niveaux. Et j'avais été frappé à l'époque par une phrase de Racamier qui disait « Le meilleur de la psychiatrie a toujours consisté en un regard en plusieurs registres et en une écoute à plusieurs dimensions. » Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui m'a guidé. Si vous voulez, on peut le sectarisme psychanalytique ou la prétention d'être en quelque sorte un méta-savoir, un petit peu comme la métapsychologie, vous savez, c'est très vite ridicule. C'est très vite ridicule, et la prétention de certains de mes collègues à penser qu'ils ont tout compris est à la limite du grotesque.
La psychanalyse, elle vous porte, on sent bien que ça vous porte, mais ça vous agace à la fois.
Oui, ça me porte et ça m'agace, ça me porte de toute évidence, et ça, je ne renierai jamais la psychanalyse hein, comme un irremplaçable outil de connaissance personnelle et aussi de d'appréhension de ce qui se passe dans la relation. Donc là-dessus, il y a aucune ambiguïté. Mais Pontalis a dit quelque chose, je crois, de très juste. On ne peut pas être seulement psychanalyste. Il faut être psychanalyste et autre chose. Hein. On ne peut pas s'enfermer dans le seul champ de la psychanalyse.
Vous passez votre vie, en tout cas, à vous poser des questions. Pour répondre à quel objectif? Pour dialoguer avec la société?
Il y a quelque chose de l'ordre d'une course du désir qui est de toujours relancer et de ne jamais s'arrêter. Parce que s'arrêter de penser. Mais vous posez une question en fait essentielle. Vous avez vu que dans le livre que je viens d'écrire sur la barbarie des hommes ordinaires, toute l'importance que j'accorde à la pensée. La pensée n'étant pas évidemment la qualité supérieure et intellectuelle et culturelle, mais la pensée au sens de la capacité de continuer d'entretenir cet exercice, de continuer à penser ce qui vous arrive, y compris dans les situations les plus terribles. Moi, une de mes histoires préférées, c'est celle de l'homme qu'on conduit à l'échafaud un lundi matin et qui dit « la semaine commence mal ». C'est-à-dire, je me dis « mais est-ce que je serais capable de penser dans cette situation ?» Et la pensée, le maintien de la pensée, c'est quelque chose de fondamental. Ça nous apprend quoi, une analyse? Ça nous apprend notamment que dans les pires moments, on peut continuer, et c'est déjà un apaisement. On peut continuer de se représenter ce qui nous arrive. Hein. Moi, vous savez, j'ai eu une expérience assez traumatique qui a été le début de mon intérêt pour les tueurs en série. C'est-à-dire que c'est une affaire qui, à l'époque, avait été une affaire d'État. Enfin, je passe les détails. Mais c'était un homme qui avait, un jeune homme, qui avait commis deux crimes assez atroces et qui avait ensuite, en prison, et après que nous l'ayons expertisé et ayons demandé qu'il soit orienté au plus vite vers une unité pour malades difficiles, avait tué un gardien de prison. Ce qui avait été à l'époque une affaire d'État, qui avait déclenché une grève de la pénitentiaire. Les syndicats réclamaient une peine très lourde, ce qui était totalement absurde, car laisser ce sujet en prison, c'était prendre le risque d'un nouveau surveillant, d'un détenu ou d'un soignant qui risquait d'être lui aussi victime de violences graves, voire de meurtres. Et au fond, ce que nous avions dit dans notre expertise n'a pas été entendu, et j'avais une espèce de réaction traumatique, de blessure d'amour propre, et c'était le point de départ de mes questionnements sur ce que sont vraiment les tueurs en série. Où, vous savez, je pense à la phrase de Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. J'ai envie de dire que bien les nommer, c'est déjà s'apaiser et c'est ajouter à la nécessité de survivre et de trouver du plaisir dans le questionnement sur le malheur du monde.
Vous auriez pu suivre une autre voie, Daniel Zaguri ?
Alors ça, je pense que on est tous prisonniers d'une espèce de d'illusion rétroactive. Les acteurs, les chanteurs, les gens vous disent j'aurais pas pu faire autre chose, j'aurais été très malheureux. J'ai tendance à penser que d'abord je suis très satisfait, j'ai aucun regret, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et je regrette rien. Mais peut-être, j'ai tendance à penser effectivement que je n'aurais pas pu faire autre chose, mais je pense que c'est une illusion. La vie, vous savez, il y a des moments carrefour à évolution aléatoire. Peut-être que j'aurais pris une autre route et peut-être que cette autre route aurait aussi pu être la bonne. J'avais, quand j'étais adolescent, le désir d'être acteur. Bon, ça me plaisait, ça m'attirait, j'adorais le théâtre. Et puis je ne l'ai pas fait, peut-être parce que j'étais l'aîné de la famille, peut-être parce que c'est trop incertain. Je ne l'ai pas fait, et puis je ne le regrette pas. Mais je dirais que cette potentialité à la théâtralité, peut-être qu'il me sert un petit peu, par exemple dans les procès d'assises.
Qu'avez-vous cherché à transmettre à vos enfants, une sorte de croyance en l'homme et non en Dieu ?
Alors, vous savez, je crois qu'il faut être extrêmement modeste quand on parle d'éducation. Freud le disait très bien. On rate toujours l'éducation de ses enfants. Enfin, on en rate toujours une partie. Et je crois que ma femme a transmis à nos enfants beaucoup d'amour, une sorte d'amour tout à fait inconditionnel. Donc, je n'ai pas épousé une femme juive, mais elle pourrait concourir. Et moi, je leur ai transmis l'ambition, enfin la flamme, l'envie de... Alors, quand mes enfants étaient petits, vous savez, ils me voyaient dans le jardin, ou quand je leur donnais le bain, j'écrivais des articles en leur donnant le bain, j'ai envie de dire, bon, alors, c'est peut-être pas extraordinaire, parce qu'ils vont souvent reprocher de pas être là, tout en étant là, mais en même temps, chacun à sa manière, je pense que mes enfants ont cette flamme, enfin cette flamme qui est, comme vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui vous pousse en avant, ben voilà, c'est ça.
Vous vous retrouvez quand même aujourd'hui à être l'expert de grands procès. Qu'est-ce qui se joue pour vous ? Vous le vivez comment ? Comme une fierté, une revanche ?
Non, ni une fierté, ni une revanche, mais un défi renouvelé. Vous savez, bon, alors ça, est-ce que tu vas être cap ou pas cap ? Est-ce que tu vas y arriver ou pas ? Est-ce que tu vas parvenir à répondre aux questions qui te seront posées ? Est-ce que tu vas faire en sorte que les mêmes poncifs ne vont pas être répétés ? Est-ce que tu vas apporter un petit peu quelque chose de nouveau ? Est-ce que tu vas être à la hauteur des enjeux et de ce qu'on attend de toi ? Ou de ce qu'on fait semblant d'attendre de toi pour mieux te neutraliser ? C'est plus des choses comme ça, un défi un petit peu excitant, mais c'est pas une fierté, non.
Merci Daniel Zaguri. À demain.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Johanna Bedeau avec Daniel Zaguri. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.